quand on regarde une radio médicale, on s'attend toujours à une clarté absolue, non?
Eh ben oui, on veut voir la ligne de fracture nette, celle que le médecin peut pointer du doigt direct.
Exactement. Il y a cette attente implicite de précision presque géométrique dans notre monde moderne. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, appliquer cette même attente clinique au chapitre 2 de la Genèse, c'est s'exposer à un vertige immédiat.
Complètement. L'image se brouille très vite.
Voilà. Et on va voir aujourd'hui comment de toutes petites nuances grammaticales dans une langue morte ou des coordonnées de rivières qui n'existent même plus peuvent renverser la compréhension de l'un des textes les plus célèbres de l'humanité. Je suis ravie de lancer ce décryptage aujourd'hui. On va plonger dans des notes incroyables.
Oui, les notes de la 8e conférence d'histoire de l'Ancien Testament, données par le professeur Robert Vanoy. C'est un matériel vraiment dense et riche.
Très riche. Et notre mission pour cette analyse, c'est de s'attaquer à une énigme textuelle massive. En gros, le chapitre 2 de la Genèse, est-ce que c'est un second récit de la création qui contredirait le premier, ou alors est-ce que c'est un mécanisme complètement différent?
Et l'enjeu est colossal en fait, parce que la réponse qu'on y apporte modifie la structure même du texte. Pour comprendre pourquoi une grande partie du monde académique lit ce chapitre comme un récit alternatif, il faut d'abord regarder ce qu'on appelle l'hypothèse documentaire.
L'hypothèse documentaire, c'est le fameux découpage au scalpel dont on entend souvent parler, c'est ça?
C'est exactement ça. C'est une approche critique, très populaire depuis des chercheurs comme S.R. Driver au début du XXe siècle. En gros, cette théorie dit que le texte n'a pas été écrit d'un seul bloc.
D'accord, donc ce serait une compilation.
Ouais, une compilation tardive de plusieurs documents indépendants. Et du coup, la méthode historico-critique, elle cherche à repérer les doublons narratifs, les changements de vocabulaire.
Pour isoler ces fameuses sources d'origine.
Voilà. Et ça mène à une dissection littérale du texte. Ils ne disent pas juste que le chapitre 1 et le 2 sont différents. Ils opèrent une véritable coupe chirurgicale pour séparer les auteurs présumés.
Mais une coupe à quel endroit exactement? Parce que j'imagine que c'est précis.
Ah, c'est d'une précision microscopique. Ça se passe en plein milieu du verset 4 du chapitre 2.
Attends, en plein milieu d'une phrase?
Ouais. Mais la première moitié du verset dit, je cite de mémoire, « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. » Les analystes attribuent ça à la source P.
Le document sacerdotal, c'est ça?
C'est ça. Le document sacerdotal. On le reconnaît parce qu'il est très structuré. Il aime les listes, les généalogies. C'est un peu l'architecte du premier chapitre. Mais juste après la virgule, la seconde moitié de la phrase glisse vers un tout autre registre.
Ça dit quoi après la virgule?
Ça dit « au jour où l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux ». Et là, boum, un nouveau nom divin apparaît, Yahvé Elohim.
Ah, l'Éternel Dieu!
Exactement. Et pour la critique documentaire, ce changement brusque, ça signale l'intervention d'une autre source, la source J, le document yaviste. Donc il scinde le verset en deux, 2-4-A. Et de 4B.
Mais c'est fou quand on y pense, couper une seule phrase en deux pour prouver qu'elle a été écrite par deux personnes différentes.
C'est assez radical, Louis.
Moi, ça me donne l'impression de, prendre une peinture de la Renaissance et de la couper en deux, juste parce que l'artiste a décidé d'utiliser une nuance de bleu un peu différente pour un nuage, tu vois. D'un point de vue purement narratif, couper une phrase charnière, c'est super contre-intuitif.
L'analogie de la peinture est super intéressante. Mais un chercheur critique te répondrait sûrement que, pour eux, c'est plutôt comme découvrir une peinture de la Renaissance cousue au milieu d'une tapisserie médiévale, tu vois.
Ah oui, le contraste serait si flagrant que ça.
Pour eux, oui. Le tissu du texte change tellement que la rupture leur paraît évidente. Mais, et c'est là que l'analyse du professeur Vanoy entre en jeu, il remet profondément en cause cette découpe. Pour lui, la faille de cette hypothèse réside dans un petit mot hébreu.
Le fameux mot magique qui change tout.
Un mot fondamental, oui. C'est l'épine dorsale de tout le livre de la Genèse. Le mot « toledos ».
Toledos, qu'on traduit souvent par « génération », je crois, ou « origine ».
C'est ça. Et la racine hébraïque, c'est le verbe « yalad », qui signifie littéralement « engendrer » ou « mettre au monde ».
Donc c'est très organique.
Très organique, oui. Et ce n'est pas juste un petit mot de transition. Il apparaît 10 fois dans la Genèse. Il agit comme les piliers porteurs de tout le livre. L'argument central de Vanoy, c'est que ce mot, le toledos, il introduit systématiquement ce qui suit.
Ce qui suit, donc jamais ce qui précède.
Jamais un résumé, exactement. Il n'indique pas la conclusion d'un truc passé, mais le produit, le résultat d'un point de départ.
Du coup, concrètement, si on regarde d'autres passages pour visualiser un peu la mécanique, ça donne quoi?
Un super exemple, c'est Genèse, chapitre 11, verset 27. Le texte annonce « Voici les générations de Terach ».
Et donc, logiquement, on s'attendrait à avoir la biographie de Terach.
Bah, avec notre logique moderne, oui. Mais pas du tout. Le récit bascule direct sur l'histoire de son fils, Abraham.
Ah d'accord, donc Terach, c'est juste la rampe de lancement.
Exactement, le point de départ. L'attention se porte sur ce qu'il a engendré. Et on a la même chose au chapitre 37 avec « Voici les générations de Jacob ».
Et là, ça nous plonge dans l'histoire de Joseph en Égypte, ça?
C'est ça, le Toledot, c'est vraiment un projecteur tourné vers l'avenir.
C'est fascinant. Mais du coup, si on applique cette logique au verset 4 du chapitre 2, la fameuse phrase coupée en deux « Voici les générations des cieux et de la terre ». La perspective s'inverse complètement.
Ah bah oui, tout bascule.
Cette phrase, ça ne peut absolument pas être le résumé du chapitre 1. C'est l'amorce, c'est le grand titre de ce qui va découler de cet univers qui vient d'être créé.
Exactement. Le texte pointe vers l'avant. Et ça justifie totalement de mettre la fin du premier récit à la fin du verset 3. Le verset 4, c'est un tout nouveau départ.
Mais alors, il y a un truc qui me chiffonne. J'ai remarqué que dans beaucoup de traductions modernes, des bibles récentes, ils traduisent ce terme par des trucs super simples, genre « Ceci est le récit d'eux » ou « Voici l'histoire de dynamique ». Cette notion de germination, de voir l'histoire éclore à partir d'un événement comme une naissance continue, en lissant le texte, on perd la biologie du truc.
Je suis 100% d'accord. Ce lissage, il efface un peu le mouvement historique voulu par l'auteur. Le Toledoth, c'est pas juste chapitre suivant. Ça marque vraiment une nouvelle ère, une nouvelle interaction entre le créateur et la création. Ce qui est généré, tu vois.
Ouais, ce qui est mis en branle. Donc, si le chapitre 2 n'est pas un regard en arrière, s'il n'est pas juste un, je sais pas, un bégaiement narratif qui essaie de raconter la création une deuxième fois d'une manière différente, on doit se demander à quoi il sert. C'est quoi sa vraie fonction littéraire?
Eh ben, selon Vanoy, sa fonction est de préparer le terrain. Et de le préparer de manière presque obsessionnelle pour la tragédie du chapitre 3.
La chute.
La chute, oui. Le chapitre 2 opère un resserrement dramatique. L'objectif, ce n'est plus l'univers immense, c'est l'humain. Le narrateur construit l'échafaudage narratif pour que le drame qui suit ait un sens.
On réduit la focale à fond, en fait.
Totalement. Le décor est planté avec une précision folle. On a l'emplacement géographique du jardin parce que c'est là que la rébellion va avoir lieu.
D'accord.
Ensuite, on a un élément juridique, l'interdiction formelle de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec des conséquences mortelles. Puis, la création détaillée de la femme.
Qui va être au centre du dialogue avec le serpent au chapitre 3, bien sûr.
Voilà. Et ça se termine par un détail psychologique majeur au verset 25. L'homme et la femme sont nus et n'en ont aucune honte.
C'est fou, ça me fait direct penser à... Tu connais la règle du fusil de Tchekhov au théâtre?
Ouais, c'est ça.
L'histoire de l'arme accrochée au mur.
Ouais, c'est ça.
Si tu montres un fusil accroché au mur au premier acte, il doit obligatoirement tirer au troisième acte. L'efficacité de ce texte de la Genèse, c'est le même principe. Tous les éléments sont placés avec une intentionnalité incroyable. L'arbre, la règle, la femme et cette nudité sans honte.
C'est exactement ça. Ce sont des fusils chargés.
Prêts à exploser.
Parce que dès le verset 7 du chapitre 3, quand ils désobéissent, leurs yeux s'ouvrent. La conscience de leur nudité les frappe et ils cousent des feuilles de figuier. La connexion est totalement organique. Le chapitre 2 n'existe narrativement que pour donner tout son poids tragique au chapitre 3.
C'est super élégant comme structure. Mais parce qu'il y a un mais, il reste quand même un gros éléphant dans la pièce pour ceux qui défendent l'unité du texte.
Le problème de la chronologie, j'imagine.
Exactement. Le chaos chronologique apparent. Parce que l'ordre des événements a l'air complètement inversé entre les deux chapitres. Dans Genèse 1, c'est très ordonné. La végétation, puis les animaux, et enfin l'humanité en point d'ordre.
Ouais, l'ordre cosmique classique.
Mais quand on lit Genèse 2, en français, on a l'impression que l'homme est formé en premier, avec la poussière. Ensuite, paf, on plante la végétation. Après, on forme les animaux, et la femme arrive à la toute fin. C'est un bouleversement total. Comment l'expert résout ce dilemme sans tordre le sens du texte?
La clé, en fait, elle est dans la grammaire hébraïque. Et c'est là que c'est fascinant. Contrairement au français où on a des temps très marqués, comme le passé simple ou le plus que parfait.
Le plus que parfait, donc une action antérieure à une autre action dans le passé.
Exactement. Eh bien, l'hébreu biblique ne possède pas de forme verbale exclusive pour exprimer ça. Il ne fait pas la distinction évidente. C'est le contexte qui dicte le sens.
Oh, d'accord, ok. Donc ça dépend vraiment de l'interprétation du traducteur.
Totalement. Si dans la traduction, au lieu du passé simple classique, on opte pour « Dieu avait planté un jardin » et « Dieu avait formé les animaux », la contradiction chronologique s'évapore complètement.
Ah oui, ce petit ajustement change tout. Ce n'est plus « Dieu créa l'homme » et ensuite il se mit à faire des animaux, ça devient « Dieu créa l'homme » et il lui amena les animaux qu'il avait déjà formés avant.
C'est ça. Et il y a un autre point crucial. Le chapitre 2 ne décrit pas la création mondiale de la flore. Il spécifie que Dieu a planté un jardin précis, en Éden.
Donc un aménagement très localisé, pas la forêt amazonienne, quoi.
Voilà, c'est micro-local, pas macrocosmique. D'ailleurs, à ce propos, la conférence cite un chercheur, H.C. Leupold, qui fait une remarque super pertinente sur la psychologie des rédacteurs anciens.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Il souligne à quel point il est improbable qu'un éditeur ou un compilateur antique ait été assez, disons, inepte pour placer délibérément côte à côte deux récits chronologiquement exclusifs, sans même essayer de les harmoniser.
C'est vrai que s'imaginer que les rédacteurs ne relisaient pas leurs propres textes, c'est un peu un complexe de supériorité moderne, non ?
C'est ça. C'est projeter une incompétence sur des esprits qui étaient littéralement très sophistiqués.
Moi, ça me fait penser à un choix de réalisation au cinéma.
Comment ça ?
Bah, le chapitre 1, c'est le grand plan large. Le drone qui survole la Terre, il montre la construction d'une ville entière. Et le chapitre 2, c'est pas un remake du film avec un mauvais scénario. C'est un flashback immédiat rendu possible par ce fameux plus que parfait pour resserrer la caméra sur un appartement spécifique.
Un appartement déjà meublé en plus.
Exactement. Et l'attention se porte juste sur le locataire qui entre dedans.
C'est une excellente image. Et ça rejoint une analyse de Derek Kidner sur les versets 5 et 6 du chapitre 2.
Ah oui, ces versets un peu bizarres sur la vapeur et les plantes qui ne sont pas encore là.
Oui. Kidner explique que ça ne décrit pas une sécheresse locale, mais l'état chaotique et non formé de la terre. Le monde est dans un état de « pas encore ». C'est un parallèle direct avec le « tout baou » de Genèse 1, verset 2.
Ce fameux état originel, informe et vide. Donc la Terre attend l'intervention divine pour ordonner l'espace de vie.
Exactement.
Bon, on a ce resserrement de caméra, cet appartement meublé, mais ce zoom s'accompagne d'instructions géographiques qui sont extrêmement précises. Les fameuses coordonnées de l'Éden.
Oui, les versets 10 à 14 listent un réseau hydrographique complexe. 4 fleuves liés à l'Éden.
Et curieusement, ces indices très précis nous mènent aujourd'hui dans une impasse totale. Qu'est-ce que disent les sources là-dessus ?
Le texte nomme 4 rivières, le Pichon, le Gihon, le Tigre et l'Euphrate. Et il donne même des repères économiques. Il dit que le Pichon entoure le pays de Havila, connu pour son or de qualité, et la pierre d'onyx. Et le Gihon entoure le pays de Cush. Un érudit comme Ephraim Spicer suggère même que le fleuve prend sa source en Éden, puis se divise à l'extérieur.
Sauf que si le Tigre et l'Euphrate, on les connaît très bien, Mésopotamie, Golfe Persique, tout ça, le Pichon et le Gihon, c'est un mystère absolu. Ils sont introuvables. Comment les chercheurs tentent de résoudre ça ?
Les notes détaillent 3 grandes approches. La première, c'est de se dire que la géographie d'avant le déluge était radicalement différente.
Donc un cataclysme géologique.
C'est ça. Peut-être que ces 4 rivières convergeaient dans ce qui est aujourd'hui le nord du Golfe Persique. Ce qui voudrait dire que l'Éden est actuellement sous l'eau.
Une carte topographie littéralement engloutie. Mais, question bête, si tout a été détruit et submergé, pourquoi on a encore un Tigre et un Euphrate aujourd'hui avec ces noms-là ?
Ah, eh ben ça nous amène direct à la deuxième explication, le transfert de noms.
Comme les colons qui ont appelé la nouvelle ville New York en mémoire de York en Angleterre.
Exactement ce principe. Les noms des fleuves antédiluviens étaient tellement ancrés dans la mémoire des survivants du déluge qu'ils ont appliqué ces noms prestigieux à de nouvelles rivières par la suite.
D'accord, donc le Tigre moderne ne partagerait que le nom avec le Tigre de l'Éden, ce qui veut dire que l'Éden pourrait être littéralement n'importe où.
Voilà. Et puis, il y a la troisième approche, celle du point de vue critique ou allégorique.
Ah, ceux qui rejettent la carte physique.
Oui. Un bon exemple, c'est J.C. Gibson dans la série Daily Study Bible. Pour lui, l'Éden n'a jamais existé géographiquement.
C'est juste un mythe alors ?
Une allégorie, oui. Gibson compare ça à l'histoire de Cendrillon. Pour lui, c'est un jardin de l'esprit humain. Ça représente ce que le monde devrait être. Et Adam ne représente pas un individu historique, mais chaque homme.
Je veux bien ne pas prendre parti, mais... cette théorie du mythe de Gibson, je trouve qu'elle a un paradoxe assez amusant.
Lequel ?
Bah, si c'est juste un conte de fées philosophique sur la condition humaine, Pourquoi s'encombrer avec des détails géographiques aussi ennuyeux et précis que la qualité de l'or ou les pierres d'onyx dans la région de Avila?
C'est un argument très fort.
Je veux dire, les contes de fées, ils disent « il était une fois dans un pays lointain », ils ne s'arrêtent pas en plein milieu de l'histoire pour te donner un rapport topographique et géologique sur le prochain croisement de rivières.
Non, c'est clair. Et c'est exactement ce que Van Hoy met en contraste avec la compréhension de l'historiographie de l'Ancien Testament. La question c'est, est-ce que le texte relate des faits ou non? Pour Van Hoy, l'auteur biblique ancrait clairement son récit dans la réalité, même si on a perdu la carte aujourd'hui.
C'est vraiment un voyage intellectuel impressionnant. Pour récapituler un peu tout ce qu'on vient de voir, hein, ce qui semble à première vue être une simple répétition pleine de contradictions avec Genèse 1
s'avère être tout l'inverse.
Oui. Grâce à l'analyse du mot toledot qui pousse vers l'avant et à la compréhension des temps verbaux hébraïques, on découvre une structure littéraire hyper sophistiquée. On passe d'une vue cosmique à la condition humaine, juste pour préparer la scène de la chute.
C'est une architecture narrative brillante. Et ça m'amène d'ailleurs à une réflexion finale, basée sur ces sources, que je trouve assez provocatrice.
Ah, je t'écoute.
On peut se demander si notre obsession moderne pour la chronologie stricte, tu sais, les frises historiques bien linéaires, est-ce que ce ne serait pas notre plus grand obstacle à la compréhension de la sagesse antique?
C'est-à-dire ?
Qu'on lit avec de mauvaises lunettes, fondamentaux de l'humanité, est-ce qu'on est en train de lire complètement à l'envers aujourd'hui, simplement parce qu'on refuse d'enlever nos lunettes modernes?
C'est une pensée vertigineuse. Penser qu'un texte est défectueux juste parce qu'il ne rentre pas dans notre fichier Excel moderne, c'est peut-être notre plus grande illusion intellectuelle. Eh bien, c'est une invitation puissante pour ceux qui nous écoutent à relire ces textes anciens avec un regard neuf et de laisser nos certitudes chronologiques à la porte.
Absolument.
Merci d'avoir décortiqué ces notes fascinantes avec moi.
Avec grand plaisir.
Et sur cette pensée provocatrice, on clôture notre immersion du jour.